avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 876 d'Invino. Depuis la création de l'émission, c'était en 2004, et oui déjà, hein. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio, allez à Perpignan par exemple, hein, au Pays du Soleil, 103.2, par hasard mon cher Philippe.
Pur, pur hasard, et après tout c'est le centre du monde.
On peut se retrouver David sur notre page Facebook. Invino, aujourd'hui un menu qui, comme d'habitude, prêche la consommation modérée et responsable avec le château Michel Montaigne, le vin de Montmartre, et oui, ça existe, le champagne de Saint-Gall, un coup de cœur. En direction de Chablis, à mes côtés, Hélène Pio, Philippe Forbach et David Cobol. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Alors,
bonjour.
Pour commencer, on va commencer Invino Sud Radio avec vous, David Cobol, depuis le Vino Quiz.
Le Vino Quiz, dont je vous rappelle le principe, chaque semaine, nous posons une question sur le vin. Évidemment, notre sujet sur Invino. Et le vainqueur gagnera, s'il est tiré au sort parmi les bonnes réponses, le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux. La question de la semaine dernière fut: quel type de viticulture est pratiqué par la maison de Champagne Leclerc-Brion? Option A, la viticulture traditionnelle dans les vignes. Option B, la viticulture biologique et biodynamique. Et option C, la viticulture aérienne, proche des planètes, qui a aussi un lien avec l'option B, mais bon.
Bah donc oui. David, la réponse est
La bonne réponse, c'était B.
Cette semaine, David.
Alors, nouvelle question. Le champagne de Saint-Gall, en restant champagne, propose une nouvelle gamme qui se nomme A, influence, B, artifice, C, bulle de douceur.
Alors, A, B ou C, on joue sur quoi?
On joue. Bien sûr, il faut vous connecter au site invinoradio.fm et aller vers la rubrique Vino Quiz.
Merci beaucoup, David Cobol. Invino sur Radio accueille maintenant Xavier Loriot, directeur technique du château Michel Montaigne. Bonjour, Xavier.
Oui, bonjour.
Alors, il s'agit d'un domaine familial ou pas? Racontez-nous, là.
Alors, en quelques mots, donc, moi, je dirige ce domaine depuis quelques mois maintenant, depuis février. Et ce domaine appartient à la famille Mellerbès.
D'accord.
Ils sont là depuis 7 générations. C'est une famille connue à Bordeaux dans le monde du vin, puisque ils étaient jusqu'à il y a quelque temps à la tête d'une grande maison de négoce à Bordeaux. Et voilà. Et notamment, ils sont aussi copropriétaires du Château Palmer, qui est un grand cru classé.
Belle référence, quoi.
Voilà. Et aussi propriétaires donc du Château Michel de Montaigne. Leur aïeux, Pierre Magne, qui était un ancien ministre de Napoléon III, avait acheté ce domaine en 1860. Voilà pour la petite histoire.
Très bien. Et les bio?
Alors, effectivement, 1860, alors, c'est le château Michel de Montaigne. Vous avez dit Michel Montaigne tout à l'heure, Alain. C'est pas très grave, mais moi, j'ai découvert à cette occasion, je connaissais les vins, mais j'avoue n'être jamais allé sur place. J'ai découvert qu'il y a un plateau Saint-Michel de Montaigne.
Ah, ben très bien, ça.
Saint-Michel. Carrément. Mmh. J'ai trouvé ça formidable. Parce qu'effectivement, la philosophie faite sainteté, c'est quand même quelque chose d'assez unique. Alors, sur ce plateau Saint-Michel de Montaigne, combien d'hectares de vignes le château?
Alors, le château, nous avons à peu près 20 hectares, environ 19 hectares de vignes, et environ un tiers de cépage blanc et deux tiers de cépage rouge. Et donc, on produit des vins rouges à la fois deux cuvées, une cuvée le grand vin et les essais. Bien sûr, on ne pouvait pas ne pas citer les essais de Montaigne. Voilà. Et puis, vous savez, quand on est vigneron, on s'essaye tous les ans aussi. Hein. On fait beaucoup d'essais dans notre vie de vigneron.
Ça.
Et puis, en blanc, on fait du blanc sec, mais aussi des vins moelleux qui sont historiquement présents en Dordogne depuis de nombreux siècles.
Voilà. Ils sont tous en appellation Bergerac?
Alors, nous sommes en appellation Bergerac, tout à fait.
Vous êtes répartis en deux sites. D'une part, le plateau, 12 hectares et demi. Et puis, l'autre part, Fagnard et un endroit que j'adore, ça s'appelle Pidou. Et à chaque fois, Pidou, j'adore. À chaque fois, je vois Marilyn Monroe, à chaque fois que je bois vos vins.
La ressemblance avec vous est frappante.
C'est ça, c'est absolument.
C'est vrai,
mais avec Xavier Loriot aussi, d'ailleurs. C'est étonnant.
Très alors, bien, mais c'est vrai que vous avez beaucoup d'humour, mais nous aussi on essaye d'avoir beaucoup d'humour. Vous savez, Montaigne était un grand humaniste et qui était lui aussi pétri d'humour, et notamment il avait la capacité à avoir beaucoup d'autodérision vis-à-vis de lui-même. Donc effectivement on a le plateau Épidou, et ce lieu d'Épidou est en réalité sur un autre terroir en contrebas du château, sur les pentes en contrebas du château, alors que le plateau est adjacent à la tour de Montaigne, D'ailleurs, les vignes de ce plateau voient la tour de Montaigne historique qui est là depuis plus de 700 ans.
Voilà. Tour qui se visite d'ailleurs. On peut visiter y compris tout les appartements fait. De Michel de Montaigne.
Tout à fait. Nous avons notre site est un site viticole, mais aussi touristique, puisque nous voyons plus de 15 000 visiteurs par an.
Ah, c'est pas mal. Voilà, puisque, David voilà, Cabal, vous avez une question, David ?
Oui, est-ce que sa célèbre bibliothèque a été conservée ou pas ? Vous ne l'avez pas ?
Ah, bien sûr. Alors, par contre, la célèbre bibliothèque, elle se visite. Ce qu'il n'y a plus, ce sont les livres qui, a priori, comptaient plus d'un millier de livres à l'époque de Montaigne. Ces livres ont été répartis dans différentes collections et notamment à la librairie à Bordeaux, à la bibliothèque de Bordeaux. Mais par contre, le site et le lieu et notamment toutes les gravures des citations grecques et latines qui sont sur le plafond de la librairie, elles sont toujours là et les touristes, bien sûr, visite la librairie et le cabinet de travail de Montaigne, où il y a des peintures, notamment de l'époque de Montaigne, encore présentes sur les murs.
Alors, la prochaine visite possible, j'ai regardé, ça sera ce jeudi, le jeudi 21 novembre. Voilà, vous pouvez vous inscrire en ligne pour aller visiter tout ça. Et puis, vous allez découvrir la grande maxime de Michel Eckem de Montaigne. Il ne convient pas d'aimer le vin modérément. On pourrait croire que vous tenez ce don de Dieu pour peu de choses.
C'est joli.
Donc,
ça.
C'est pas un encouragement à la modération, mais c'est un encouragement.
Oui, si. En tout cas, d'ici, on prêche la modération. Alors, avant de passer au coup de cœur de la journée, là, de ce samedi, un petit mot peut-être, Xavier, sur l'importance du bouchage. Parfois, on a des mauvaises surprises. Vous utilisez quelles solutions ?
Alors, nous, depuis déjà pas mal d'années, nous utilisons le bouchage Diam, qui est une société basée dans le sud de la France, qui a un procédé révolutionnaire de traitement du liège. Et ces bouchons, donc le grand intérêt des bouchons Diam, et tous nos vins sont bouchés avec du bouchon Diam, c'est qu'il y a zéro goût de bouchon.
Ouais,
donc
ça, c'est quand même une grande qualité, quoi.
Voilà, à nos consommateurs et aussi à nos revendeurs.
Pas de mauvaise surprise, c'est ça, Xavier ? Pas de mauvaise surprise, quoi. Hélène, pour terminer, donc le coup de cœur aujourd'hui, le bon plan du week-end, c'est quoi ? C'est quel vin,
oui,
Xavier ?
Alors, le bon plan du week-end, c'est la cuvée bien nommée Les Essais 2016, en Bergerac rouge. Un nez profond, cassis, cacao, légèrement mentholé, une grande fraîcheur. C'était vraiment plaisant. Tanin présent, finale légèrement acidulée, chaleureuse, super longueur. Et comme il me faisait penser à certains vins argentins, je me suis partie à philosopher, à voyager. Et puis, j'ai fait des empanadas avec. Et ben, c'était super bon, ça marchait très bien.
Merci beaucoup, Xavier. Merci également à vous, Hélène. Invino Studio Radio retrouve maintenant Philippe Forbach, notre meilleur sommelier du monde à nous, pour nous permettre de déguster le roi des vins, le vin des rois, direction Montmartre.
Oui, pas tous les jours quand même, parce que la quantité produite...
C'est d'abord, ça monte en plus.
C'est limité. Oui, il y a toujours eu du vin en bordure de Paris. C'est assez logique, puisque pendant très longtemps, et c'est toujours le cas d'ailleurs, compte tenu de la concentration d'habitants, c'est un endroit où on consomme, historiquement parlant, du vin, et beaucoup de vin. Pourquoi les vignes étaient du côté de Montmartre notamment et tout autour de Paris ? C'est parce qu'il y avait le fameux octroi qui faisait qu'on devait payer une taxe relativement importante lorsqu'on produisait et lorsqu'on consommait effectivement du vin à l'intérieur des murs de la cité de Paris. Donc du coup, les vignobles se sont répartis tout autour. Ils pouvaient comme ça bénéficier, j'allais dire, de taxes allégées. Et surtout, on a organisé des guinguettes à proximité, qui étaient des bars de l'extérieur, finalement, des murs de la cité, et sur lesquels, effectivement, on pouvait venir s'encanailler. Certes, avec beaucoup de grande modération, on peut imaginer à l'époque.
On pouvait flirter, il n'y a pas mythique à l'époque.
En tout cas, nettement moins cher. C'est pour ça qu'on a des vins, donc à Suresnes, le très célèbre coteau, mais également dans d'autres parties de toute cette couronne parisienne. Et pendant très longtemps,
les Moux.
Et c'est les Moulineaux notamment, et la plupart des communes autour de Paris étaient productrices de vin.
Tous les coteaux.
Et sur tous les coteaux, exactement. Et c'était même, pendant très longtemps, le plus grand vignoble de France. Ce qu'on n'imagine pas, vu depuis notre époque, effectivement. Alors, pour revenir à Montmartre, les premières vignes plantées à Montmartre datent du Xe siècle. C'était en 1922 qu'on a les premières traces de vignobles développés. Et pendant de très nombreuses années, ce vignoble a vécu. À partir de... En 1860, la commune de Montmartre a été intégrée à la ville de Paris. Alors là, il y a eu des changements. Et notamment, l'activité agricole de la butte de Montmartre s'est plutôt développée en activité immobilière. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a mis cette vigne qui est un véritable coup de poing, nocturne, a priori, pour occuper le terrain, déjà à l'époque. Et c'est Francisque Poulbeau, le créateur de la République de Montmartre, qui en 1928, avec ses amis, ont occupé ce terrain qui était promis à une vocation immobilière pour effectivement le sauver. Il faut dire que c'est un endroit extraordinaire sur lequel Aristide Bruand, Renoir et les grands noms de cette époque étaient venus peindre, s'installer, camper, etc. Et que ça faisait mal au cœur, effectivement, que ce terrain soit bâti. Alors, ce n'est pas le meilleur terrain pour la vigne. Hein. Il est exposé nord.
Voilà, bon, c'est une région ensoleillée, Paris. Hein, ça va,
oui,
ça
certes.
Compense.
Il y a le réchauffement climatique.
Voilà. Et maintenant, oui, à l'époque, en 1928, ils ne se posaient pas trop la question. Et ils ont planté, à cette époque-là, ils ont commencé à planter un peu de la vigne. Et c'est à partir de 1933, réellement, que le vignoble s'est structuré. Et dès 1934, l'année d'après, il n'y avait pas encore de raisins. Ils ont acheté des raisins partout, à Rungis et ailleurs. Enfin, Rungis dans les Halles de Paris, qui n'étaient pas Rungis à l'époque. Ils ont acheté des raisins de manière à les accrocher sur la vigne. Et ils ont fait des vendanges. Ils ont invité, comme parrain de la première fête des vendanges, Mistinguett et Fernandel.
Ah, quand même hein.
Exactement. Ouais. Et c'était le président Albert Lebrun qui est lui-même venu inaugurer la fête des vendanges. Le temps a changé. C'est vrai qu'on voit moins M. Macron
Hélène.
Ou autre venir à la fête des vendanges de Montmartre maintenant.
Non, mais on peut toujours festoyer à Montmartre. Moi, il y a un endroit que j'aime beaucoup et je tiens à faire un grand clin d'œil à la Bonne Franquette.
Oui,
qui est le super bar à vin bistrot de Montmartre. Et je sais qu'il y a beaucoup de pièges à touristes hein,
oui,
à
mais
Montmartre.
Là, c'est authentique
mais
et c'est
sympa. La Bonne Franquette,
quoi.
C'est Patrick Frashbou qui est derrière, qui a aussi les noces de Jeannette dans le 2e arrondissement à côté de l'Opéra Comique. À tous mes copains touristes, je leur dis, vous montez à Montmartre, vous allez chez Frashbou à la Bonne Franquette, vous descendez faire un théâtre, c'est pareil, les noces de Jeannette.
Il y a plein d'endroits sympathiques, mais effectivement, la Bonne Franquette, ça vaut la peine. C'est Luc, maintenant d'ailleurs, le fils qui s'occupe de tout ça avec habilité. Donc on produit que du vin rouge. Avec les raisins normalement qui viennent de cette vigne, ça fait à peu près voilà, ça fait il y a 2000 pieds de vigne un petit peu moins.
Quelques
aujourd'hui.
Quelques vignerons intéressants à ne pas louper.
Voilà, le vigneron le plus célèbre, c'est la commune de Paris puisque ça appartient à la commune de Paris. Et c'est les raisins sont vinifiés dans la cave de la mairie du 18e arrondissement. Il y a depuis pas très longtemps une œnologue qui travaille très bien. Et si l'évolution climatique rend le vin plus attrayant qu'avant.
Merci Philippe Orbach, merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec Marc Ferté, l'excellent directeur général du champagne de Saint-Gall.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour de Invino Sud Radio chez le caviste Nicolas à Paris pour cette émission en public et délocalisée avec un nouvel invité, Marc Ferté. Bonjour Marc.
Bonjour Alain.
Alors vous êtes le directeur général du champagne de Saint-Gall. Un mot sur votre parcours d'abord, diplômé de l'IFG et vous avez passé plus de 20 ans chez Mouette Hennessy. Racontez-nous.
Ah oui, 20 ans très variés. C'est-à-dire que j'ai commencé dans le marketing à une époque où le marketing en champagne relevait de choses qui étaient peut-être pas aussi organisées que celles l'est maintenant. Et mais une période absolument merveilleuse, puisque c'était un moment où on développait des marques comme Mouette et Chandon, comme dans Pérignon, et on s'occupait aussi d'autres marques de distribution en France, qui étaient le GNB. On était les premiers et les pionniers en la matière. Donc un vrai bonheur. Et après, je suis passé dans le commerce parce que la conception, la réflexion me suffisait pas. J'avais besoin de vendre. Et donc, je suis rentré dans le commerce.
C'est un beau métier, ça.
Ah ouais. Et j'ai fait plein de choses. C'est moi, c'est ça qui me plaisait. C'est que ces 20 ans qui ont été très variés, du commerce.
Et c'est passé vite en plus, non, Marc?
Ah ouais.
Bon, alors ensuite, une escapade à Bordeaux pendant 13 ans.
Ouais.
Voilà. Mmh. Et vous avez rejoint donc la Champagne en 2017. Mmh. Alors, un petit mot sur ce Champagne de Saint-Gall que vous dirigez. Mmh. Les propriétaires, si je puis dire, c'est un groupement, Union ouais. Champagne.
C'est un groupement de 14 coopératives, des 2500 vignerons, donc c'est une union de producteurs, des coopérateurs très motivés et très attentionnés sur leurs raisins et qui nous apportent les plus beaux raisins de la Champagne puisque c'est 1350 hectares collectés.
Vous avez un terroir et un vignoble exceptionnel.
Exceptionnel, c'est 90% premier et grand cru, c'est 800 hectares sur une côte des Blancs où il n'y en a que 3000. On a vraiment une position assez exceptionnelle et on a une chance inouïe et on ne peut que faire un bon produit.
Combien de coopérateurs au total, les coopérateurs?
2500.
2500. Ouais, alors 2500. C'est pas trop dur à manager un coopérateur. Attention, ils vous écoutent
non,
tous
non,
là.
Non, mais je ne peux que m'en féliciter. J'ai des adhérents qui sont absolument merveilleux. J'ai 2500
ministre,
patrons,
ambassadeur,
c'est génial.
Marc. Hein, ouais, on verra.
On verra.
Alors on va essayer de parler un peu de cette maison de champagne de Saint-Gall que j'aime beaucoup à titre personnel. Comment est-ce qu'on peut définir le style?
C'est un style d'abord qui est assez unanime sur la Côte des Blancs, donc très dominant au niveau de la Côte des Blancs, puisque sur les 1350 hectares que nous collectons, il y en a 800 qui viennent de la Côte des Blancs. Donc, et c'est un peu notre marque de fabrique. C'est un vin qui est assez franc, qui est assez tranchant et assez frais et quelque chose qui est très marqué. Quand je suis arrivé, je me souviendrai toujours d'un petit Asiatique que je retrouvais à Vinexpo, qui me dit « Je cherche le fin du fin en blanc de blanc et je cherche le stand d'Union Champagne. Où est-il ?»
Je dis, voilà, belle référence.
Tu l'as en face de toi.
Vous êtes basé où exactement? À Avize ?
À Avize et on couvre 14 villages. Dont Bergère, Les Vertus, Auger, Mesnil-sur-Auger, Cramant, Bonnet, voilà. Enfin, merveilleux.
Que des stars. Voilà. Quoi. Comment est-ce qu'on peut définir la gamme? Donc ça va de quoi? Vous avez un brut sans année?
Alors on a un brut sans année. On a surtout une gamme de blanc où là on a un extra brut, un blanc de blanc premier cru, un extra brut grand cru et un millésime grand cru. Et ensuite, on a une cuvée dite spéciale, une cuvée extraordinaire qui s'appelle Orpal, oui. Qui est un assemblage des quatre grands crus de blanc que sont Auger, Avize, Mesnil-sur-Auger et Cramant. Un régal.
Oui, on dit souvent que c'est un rapport qualité-prix exceptionnel. Combien ça vaut chez un caviste, par exemple?
Je me pose des questions parce que je pense que c'est pas assez cher.
C'est-à-dire combien à peu près
pour le Orpal, on est à 80 euros. Oui, pour un 2002, c'est quand même pas... à la hauteur.
Vous avez un chef de cave qui est dans la maison depuis longtemps?
Une vingtaine d'années. Jeune malgré tout, et il a commencé dans la maison, il est totalement imprégné, il est adhérent, il est également vigneron, donc oui. Il est complètement dans la culture de l'entreprise et il maîtrise bien cette relation entre le vignoble et entre ses cuves et il nous fait quelque chose de tout à fait extraordinaire.
Ouais, c'est le magicien d'Union Champagne, ouais, et du Champagne de Saint-Gall.
Alors, parce qu'il va écouter, donc il a la chance d'avoir...
Quel est son prénom?
Cédric.
Cédric, on l'embrasse. Voilà. Alors dites-nous, au niveau de la distribution, c'est très bien d'élaborer un excellent champagne, après il faut le vendre. Au niveau de la distribution, il y a une prédominance du marché français ou l'export?
On fait 30% sur le marché français et on fait donc le reste à l'export. On est sur des volumes qui sont quand même relativement modestes par rapport à nos capacités. Donc on se développe très fortement à l'export, mais on n'oublie pas le marché français parce que c'est quand même le premier marché du champagne au monde.
Bien sûr.
C'est quand même une référence. Et il nous faut cette base de notoriété sur ce marché pour nous développer l'export.
Et donc, en général, vous faites un peu de grande distribution ou alors au contraire, c'est une sélection?
Alors, pas grande distribution parce qu'il faut d'abord qu'on crée un contenu à cette image et seul face aux consommateurs dans un rayon, on leur apprendrait pas grand chose. Donc on a besoin de créer une histoire et on a commencé par le circuit dit de prescription.
D'accord.
Et on est en train de raconter des histoires.
Les cafés, hôtels, restaurants, c'est les cavistes, quoi. Le caviste pour vous c'est un élément important comme un sommelier?
Majeur parce que justement comme on a nos terroirs, on a une histoire à raconter qui n'est pas celle d'une famille aristocratique arrivée en Champagne ayant traversé les États-Unis, j'en sais rien.
La marque était créée quand vous dites?
En 70.
Oui, donc, elle
donc c'est relativement récent. Et cette marque, elle a surtout du monde derrière, quoi. Et c'est ça qu'il faut qu'on raconte, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que cherche le consommateur? De l'authenticité, de la vérité. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour mettre en proximité le consommateur? Et c'est la COP.
C'est parfait, Marc, ne changez rien, vous êtes parfait. Invino Sud Radio, on retrouve maintenant David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, pour nous parler de Chablis. Il n'y a toujours pas de feu rouge ou de feu vert?
Toujours pas, mais il y a pas mal de ronds-points.
Bon.
Donc un petit coup de cœur. Alors c'est arrivé vraiment un peu par hasard, même si j'avais connaissance de ce domaine auparavant. Il se trouve que, et merci à eux, Kawasaki France m'avait prêté une machine assez extraordinaire qui s'appelle le H2 Ninja. Donc ça va à des vitesses inavouables sur les autoroutes en Allemagne.
Ah, en Allemagne, ouf, j'ai eu
très peur. Exclusivement en Allemagne.
Exactement.
Exclusivement en Allemagne. Donc, malheureusement, il pleuvait le week-end où j'ai eu cette moto pendant une semaine. Mais le lundi, il faisait beau, donc j'ai décidé, allez hop, je pars à Chablis, aller-retour, juste pour voir et pour essayer la machine. Eh bien, m'en a pris, parce que d'abord, j'ai pu saluer un copain qui est aubergiste, enfin, restaurateur.
Tavernier.
Oui. C'est un type adorable qui s'appelle Fabien Espagna, qui tient le fil du zinc à Chablis, un excellent restaurant qui est dans une petite ruelle en plein cœur de Chablis.
Et qui est ouvert le lundi.
Et qui est ouvert le lundi. Malheureusement, je suis arrivé après le repas, donc je n'ai pas pu manger. Donc j'ai pris un café avec lui. On a parlé rugby, c'est aussi un fanatique de rugby et de moto. Donc on a parlé moto, on a parlé vin. Et puis je prends la moto pour revenir à Paris. Et en quittant Chablis, toujours pas de feu rouge, hein, je constate, juste avant d'arriver au rond-point à la sortie, qu'il y a un bâtiment un peu neuf, mais assez discret, basse, une bonne partie couverte de bois, assez joli, sur la droite. Et juste en passant, je me rends compte que je vois dessus le domaine d'Henri. Et je dis, mais oui, mais c'est la nouvelle activité de Michel Roche et sa famille. Et je n'ai jamais goûté tous ces vins. Donc, rond-point, demi-tour, je reviens, je me garde devant, j'enlève mon casque. Et à l'intérieur, je découvre Margot Laroche, une des filles, la plus jeune fille de Michel.
Charmante et sympa.
Charmante et sympa. Et quand j'enlève ma déguisement Darth Vader, je rentre, elle m'accueille et en disant « Que voulez-vous ?» J'ai dit « J'aimerais découvrir vos vins. » Elle m'a servi tous les vins 2017 et c'était un coup de cœur. Parce que pour moi, ces vins réunissaient tout ce que j'aime à Chablis, c'est-à-dire l'espèce de finesse, d'élégance, de fraîcheur et en même temps, pas trop d'austérité.
C'est-à-dire, David, que l'ensemble de la gamme
alors,
était parfait, selon vous.
J'ai goûté 4 ou 5 vins.
Ce qui était pas mal. Hein.
4 ou 5 vins, évidemment en crachant très vite parce que j'allais prendre le guidon après. Et partant du Chablis, l'entrée de gamme, en passant par deux grands crus et une vieille vigne, tout était nickel. Tout. Et je pense qu'il faut juger un domaine par le premier prix.
Bien
toujours.
Sûr. Comme pour champagne, vous le rappelez souvent.
Comme pour toujours. Si on ne fait pas un bon entrée de gamme, eh ben on n'introduit pas la suite. C'est relativement plus facile de faire avec un grand cru ou un premier cru et des très vieilles vignes. Donc vraiment, chapeau à eux. Donc l'affaire est intéressante puisque Michel Laroche ayant vendu son affaire qui porte son nom Laroche, il ne peut pas utiliser son nom patronymal. Il a donc constitué un domaine à partir de vignes que sa famille possède depuis 1850 à peu près, parce que la famille est très anciennement établie. Il a commencé avec... ils ont commencé, parce qu'il travaille avec ses deux filles et sa femme et son épouse. Michel, maintenant, il part très souvent sur son bateau à l'étranger, mais il était là pour les vendanges cette année. Je ne l'ai pas vu, il était déjà reparti en bateau en Méditerranée. Mais ses filles s'occupent très bien de la propriété et à partir de 8 hectares, ils sont maintenant à 18 hectares et bientôt 22 hectares. Donc c'est un joli domaine familial et je tire mon chapeau à quelqu'un qui n'a pas voulu lâcher. Il aurait pu rien faire parce qu'il vendait sa boîte, on imagine, pour une certaine somme.
Et il est reparti avec une nouvelle aventure.
Il est reparti en transmettant à sa famille l'amour du vin et la volonté de travailler le vin. Donc je dis double chapeau pour la qualité des vins et pour cette affaire de transmission. Et c'est un personnage fort, donc ça ne doit pas être facile pour ses filles tous les jours. Je pense qu'il a ses avis, elles ont la leur, mais l'ensemble, le résultat est brillant.
Et donc ça veut dire, David, que
le domaine d'Henri.
Les auditeurs donc, qui écoutent une vidéo sur radio avec beaucoup d'attention, s'ils passent du côté de Chablis, toujours sans feu rouge et vert,
toujours.
Ils peuvent s'arrêter et donc ils
sont
accueillants.
Et c'est à l'entrée de
Chablis,
quand on vient d'Auxerre, quand on vient par la route principale qui mène à Chablis d'Auxerre, c'est sur la gauche en arrivant vers Chablis et vous êtes très bien accueillis. C'est simple, c'est beau, c'est élégant. Ouais. Et
allez, 19 sur 20, Hélène.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que David vient de dire. Je pense que Michel était tellement passionné que de toute façon, c'est pas qu'il n'a pas voulu continuer, c'est qu'il n'a pas pu faire autrement.
Il a ça dans le sang.
C'est ça, tellement il a ça dans le sang. Quant à ses filles qui sont effectivement très bien éduquées et au vin et à la réception des visiteurs, vous serez très bien accueillis si vous allez là-bas. Vous dites que ça ne doit pas être facile tous les jours d'être les filles de Michel Laroche. En même temps, elles ont toujours vu leur mère engueuler Michel quand il y avait un problème. Ce en quoi je l'approuve
mais ça,
à 100%.
C'est quand même une histoire de famille qui ne nous regarde pas, Hélène, ce que vous révélez là.
Oui, mais Gwenaëlle est quand même connue.
Solidarité masculine, je dis pour
oui. Non. Moi, je trouve ça très bien. En face de Michel Laroche, il faut bien trois femmes pour calmer
voilà.
Le jeu.
En tout cas, in fine, ce qui est important pour nous, c'est ces histoires. Ça, on s'en fiche un peu, mais le vin est excellent.
Le domaine d'Henri.
Ils sont très sympas.
Pourquoi le domaine d'Henri? Parce que c'était le prénom de son père.
Merci beaucoup. Merci, David Cobol. Merci également à vous, Hélène Pio, Marc Ferté, Philippe Forbach. Merci également à Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la technique. technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.fm ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission. Toujours en public et délocalisé chez Nicolas, le caviste, fondé en 1822. Nous verrons les rebondissements des arnaques dans le vin. Et nous recevrons Christelle Leprel, déléguée générale de Vins et Sociétés. Voilà, voilà, à demain. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.
Invino, avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.